Si j'ambitionne de mener ici une réflexion esthétique, je la sais forcément alimentée par la subjectivité de mes premiers saisissements artistiques. L'un des plus marquants eut pour objet les poupées de la série « Chère dame » de Michel Nadjar. Elles produisirent sur moi une émotion que je n'avais jusqu'alors jamais rencontrée, quelque chose entre dégoût, effroi et sidération. Aussi éloigné de ce repère que m'aient porté mes inclinations par la suite, je n'oublierai jamais le comblement qui avait été le mien face à ces poupées. Chacune d'elles, à mes yeux, relevait d'une combinaison accomplie. Événement intime, condensé et matérialisé dans une forme organique, vestige de quelque rituel tribal imaginaire que je croyais alors, avec un peu de naïveté et beaucoup d'ignorance, dégagé de tout contexte social et historique. Mais surtout, cette multitude que je percevais comme fœtale en appelait moins à un sens du beau qu'à un vertige de l'être. Je devais retrouver ce vertige à chaque fois qu'une œuvre m'apparaîtrait moins comme une fenêtre ouverte sur le monde qu'une porte dérobée conduisant à un psychisme d'une irréductible singularité. Mais existe-t-il un seul psychisme qui ne le soit pas ? On comprendra dès lors que l'art brut ne représente pas pour moi un champ artistique comme un autre, mais plutôt le pôle d'attraction me permettant de penser mon propre rapport à l'art. Nombre des créations d'art brut, avant même de me séduire, commencent par me désorienter fondamentalement, déséquilibrant mes certitudes esthétiques. Ce doute qu'elles insinuent contribue à rendre les catégories mouvantes et la pensée vivante. Dans mon paysage artistique, l'art brut se pose presque toujours en force régénératrice. Avant de m'engager dans le développement qui va suivre, je dois apporter deux précisions par rapport au titre choisi, l'art brut au miroir de l'art contemporain, et à la manière dont je vais le traiter. J'ai choisi de maintenir le terme d'art contemporain dans son double sens. D'une part, il désigne la révolution artistique qui s'opère au cours des années 60 et constitue une rupture par rapport à ce que l'on appelait l'art moderne, ce que l'on appelle toujours. Et d'autre part, puisque, selon moi, notre époque actuelle perpétue les différents éléments de ce paradigme, je renvoie ici au livre de Nathalie Heinisch, Le paradigme de l'art contemporain, structure d'une révolution artistique, il me paraît légitime de continuer à parler d'art contemporain pour évoquer l'art actuel. C'est aussi pour cette raison qu'il ne me paraît pas anachronique de dresser un parallèle entre des artistes appartenant à différentes générations de cet art qui continue à être contemporain. Depuis une quinzaine d'années, les rapprochements entre art brut et art contemporain se sont multipliés. À titre d'exemple, citons l'exposition conjointe de Augustin Lesage, artiste historique de l'art brut, et de l'artiste contemporain Elmar Trenkwalder à la Maison Rouge en 2008, intitulée « Les inspirés », ou encore l'intégration d'artistes bruts à la Biennale de Venise en 2013, le même Augustin Lesage, Emma Kuntz, Ugo Ofengi, en 2015, Judith Scott et Dan Miller. En 2017, une salle entièrement consacrée à Lubos Polny, dont il a beaucoup été question. Et si vous voulez, nous parlerons de la présente biennale. La plupart de ces propositions opèrent selon des parallélismes formels dans lesquels les œuvres se côtoient, dialoguent parfois, sans qu'il soit très simple de démêler les motivations des curateurs qui en appellent à cette communauté de regard. S'agit-il d'une volonté de surprendre le spectateur, d'une audacieuse démonstration de la porosité des champs artistiques, ou bien du fait du commissaire armé de l'argument définitif et pourtant bien vague, quand on les voit ensemble, on sent qu'il se passe quelque chose. À Paris, le deuxième espace de la galerie Christian Berst, The Bridge, ouvert en 2020, cherche de nouveaux accords, je crois, en dépassant les séductions de la pensée analogique, afin de déceler des parentés entre des processus de travail d'artistes bruts et contemporains. Et je cite l'exposition actuelle, mais qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir si on ne l'a pas vue, Les Danaïdes, dont le commissaire est Jan-Philippe Fröserg, qui me paraît très représentative sur ce point. Cette évolution ne peut donc plus être considérée aujourd'hui comme une série d'expériences isolées, mais comme la recherche, sinon l'affirmation, d'un nouveau statut pour l'art brut. Sur quelle base appuyer ce nouveau statut ? C'est ce que je me propose d'analyser ici en décomposant quelques propriétés plus ou moins apparentes qui lient l'art brut à l'art contemporain, générant attraction, échange ou répulsion. Il ne s'agit donc pas de justifier une réévaluation de l'art brut qui aurait pour conséquence de faciliter son absorption par l'art contemporain. Il s'agit encore moins de suivre un des poncifs de la critique d'art qui consiste à opposer l'art brut à l'art contemporain au nom d'une valeur d'authenticité dont serait porteur le premier et qui aurait déserté le second. Je crois plutôt que la reconnaissance et l'intégration plus large de l'art brut dans le paysage de l'art actuel, vous avez vu, je suis passé d'art contemporain à art actuel, s'inscrit dans une évolution qui est celle des attentes de notre société vis-à-vis de l'art. Mais je crois aussi que cette évolution relève d'un intérêt commun à l'art brut et à l'art contemporain, celui de préserver une unité dans la pluralité de plus en plus éclatée des champs de l'art, tout en y maintenant une tension qui serait le gage de la vivacité de l'histoire de chacun de ces deux pôles. Car nous savons bien que dans l'histoire de l'art, rien ne se perd. C'est un système d'une entropie sinon prévisible, du moins toujours reconnue après coup, stabilisée et à la fin digérée. Ceci jusqu'à la secousse suivante. L'histoire de l'art s'écrit sous la forme d'un palimpseste dont il est difficile de prévoir quel mouvement ou quelle théorie verront leur encre s'effacer ou remonter à la surface. Or, la place de l'art brut sur cette page est précisément à un moment où, plusieurs décennies après son invention par Jean Dubuffet, elle est en train de se rejouer. Et puisque dans un autre contexte, j'œuvre à légitimer la photo dite brute en l'inscrivant triplement dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art brut et dans l'histoire de la photographie, je saisis bien l'importance des récits qui se constituent en cet instant même où les potentialités narratives sont prêtes à s'infléchir dans un sens ou dans un autre. Depuis des siècles, l'art a eu besoin de figures héroïques, juchant chaque nouveau génie sur les épaules de ses prédécesseurs. Ceci s'inscrivait dans une histoire construite comme progressive. Il s'agissait alors soit de la poursuivre jusqu'à parfois en éprouver les limites, soit au contraire de rompre avec elle, ce qui n'était après tout qu'une autre manière de lui inventer des prolongements. La reconnaissance des premiers artistes historiques labellisés bruts, Adolf Wölfli ou Alois Korba, dans la seconde moitié du XXe siècle, devait délaisser ce grand récit pour proposer une autre direction, celle de multiples histoires individuelles indépendantes, comme autant de recommencements isolés de l'art. Bien que le grand récit de l'art pût être menacé par cette extrême diffraction, il crut peut-être engager, à travers ses destins si singuliers, une quête que je crois vaine et illusoire, celle des origines du geste artistique. Singulier, voilà le mot important. Ce principe de singularité, dont on a beaucoup parlé, une des valeurs usitées pour caractériser les artistes bruts, s'est aussi progressivement imposé comme une forme d'exigence à l'égard de l'artiste contemporain. Il peut s'appliquer diversement à la personnalité de l'artiste, à son œuvre, à ses processus de fabrication, à sa réflexion ou encore à ses positions esthétiques. Ce principe est d'ailleurs identifié comme étant une des caractéristiques principales qui marque le passage de l'art moderne à l'art contemporain. Au passage, rien ne permet toutefois d'affirmer que la théorisation de l'art brut déjà inventée depuis plusieurs années au moment de ce changement de paradigme pourrait avoir exercé une quelconque influence sur ce changement. Mais force est de constater que art brut et art contemporain convergent sur ce critère de valorisation de l'artiste et de son œuvre, révélant ainsi des attentes communes pour des domaines qui, historiquement, avaient plutôt semblé très éloignés, sinon en opposition. C'est à travers la personnalité de deux artistes appartenant aux deux champs artistiques dont nous traitons que je vais tenter d'atteindre un point qui, plutôt que de séparer la racine des choses, unirait certains aspects de leur nature et permettrait d'expliquer pourquoi notre regard travaille à réunir ces deux champs de l'art. Je regarde Roman Opalka peindre soigneusement sur une toile un nombre à 7 chiffres qu'il énonce à voix haute. Je regarde Joseph Lambert arc-bouté sur son cahier, appuyer son feutre de couleur pour enrouler méticuleusement ses anneaux d'écriture. L'un, Roman Opalka, est plutôt identifié comme un artiste conceptuel, c'est-à-dire privilégiant l'idée sur le faire, ce qui, au passage, est un prodigieux contresens pour un artiste dont le corps a été constamment mis à l'épreuve dans son œuvre. Je fais ici référence aux souffrances endurées à cause des postures gardées pendant des heures face à la toile, à celle des doigts serrant le pinceau. Le corps de l'artiste conceptuel est souvent un problème évacué. L'autre, Joseph Lambert, est classé parmi les artistes d'art brut. Pourtant, ce que je vois, ce sont deux frères en art. Mais est-ce en profondeur ou seulement en apparence? Deux frères en art, mais est-ce en profondeur ou seulement en apparence? Il nous faut dire quelques mots à propos de chacun pour mieux observer la capacité qu'a ce concept de singularité à englober des réalités bien disparates. Rappelons donc que c'est en 1965 que Roman Opalka commence, donc le nom de son œuvre, Opalka 1965/1-infini, l'œuvre qui va occuper le reste de son temps de vie, soit les 56 années qui vont suivre, peindre sur toile la suite des nombres en commençant par le chiffre 1. Le protocole mettra quelques années à se préciser, depuis la taille des toiles jusqu'à l'enregistrement de sa voix prononçant le nombre qu'il peint à l'instant où il le peint. L'autoportrait photographique à la fin de chaque toile, mais surtout l'ajout de 1% de blanc dans la confection du fond, qui était noir au départ, de chaque nouveau tableau, avec pour conséquence l'engloutissement progressif des nombres d'une toile à l'autre, le tracé en blanc de titane sur blanc de zinc n'apparaissant plus que par miroitement dans les dernières toiles. D'autres occurrences secondaires coexisteront quelque temps avec le protocole principal, mais ne le modifieront pas profondément. C'est le cas notamment des cartes de voyage sur lesquelles le décompte se poursuit quand l'artiste se déplace. Aussi radicale que paraisse la décision qui préside à cette œuvre, elle ne doit pas faire oublier qu'il y eut un avant dans la carrière de Roman Opalka, presque 20 années, pendant lesquelles il suivit d'abord une formation artistique avant de produire des tableaux dans lesquels l'œuvre à venir se laissait pressentir, sans pour autant qu'il fût possible d'y lire le projet futur dans toute son inéluctabilité. J'ajoute deux choses. Si ce projet a pris à un moment une portée existentielle évidente, nous observerons toutefois que le choix de la peinture de Chevalet l'inscrivait à l'origine dans un champ qui était d'abord celui de l'art. Vous observerez aussi que je ne vous raconte pas la biographie de Roman Opalka. Je n'ai pas envie qu'elle leste trop les œuvres que nous voyons là. Joseph Lambert, lui, est un des premiers résidents de l'AS Grand Atelier, centre pour artistes en situation de handicap mental situé en Belgique. Gustavo nous en a parlé hier. Et qui est labellisé depuis 2019 Centre d'art brut et contemporain, intitulé « On ne peut plus explicite » par rapport à mon sujet. Enchaînant inlassablement ses boucles de couleurs, car c'est le motif qu'il utilise le plus fréquemment, il trace des lignes qui s'enchaînent, collées les unes aux autres, comme un paysage stratifié à l'infini, parfois même recomposé sur la page par l'ajout de paperolles, j'utilise le terme proustien. Aussi impénétrable que soient ces dessins-écritures, il se pourrait toutefois qu'ils aient un caractère autobiographique, puisque l'auteur avait déclaré à Anne-Françoise Rouge, la directrice de l'AS, lors de son entrée à l'atelier, « Je viens pour raconter mon histoire ». Il serait possible de superposer les images de ces deux artistes au travail. La manière de vivre l'instant présent, de s'absorber dans le geste comme dans le support, toile ou papier, avec une concentration extrême, presque une sorte d'ascèse. Pourtant, si Roman Opalka a développé son œuvre dans une sorte d'érémitisme choisi, l'isolement de Joseph Lambert est d'abord celui de son état mental. Dans la mesure où son œuvre ne commence qu'à partir de son entrée dans la structure de l'atelier, il se pourrait même que la socialisation impliquée par ce dernier soit une condition favorable, sinon indispensable, à sa création. Et ceci, bien qu'il reste la plupart du temps rivé à sa table de travail, à laquelle il est farouchement attaché et qui limite les interactions avec les autres participants. Autre ressemblance entre ces deux artistes, la réitération obsessionnelle du geste ou du motif artistique. Celle-ci s'observe chez de nombreux artistes bruts, Heinrich Reisenbauer, Michel Dave, sans être pour autant un critère spécifiquement identifiant, puisque d'autres se distinguent au contraire par l'exubérance formelle de leur création, et d'autres encore par une sorte de grande œuvre unique, on a vu tout à l'heure le plancher de Janot. Il serait confortable de pathologiser cette réitération en l'associant à un surplace, à une forme de bégaiement. Mais il existe une autre lecture dans laquelle, loin d'être un point d'arrêt, la répétition, comme une forme de litanie, quelqu'un évoquait hier la prière, mais je n'ai pas d'éléments pour l'associer là à ces artistes, comme une forme de litanie peut mener à certains états de conscience, un moyen d'atteindre une forme de transe pour échapper à la trivialité du quotidien. Il serait évidemment abusif de conclure à une communauté de psychisme entre Roman Opalka et Joseph Lambert. Cette hypothèse resterait d'ailleurs tout aussi hasardeuse à propos d'artistes bruts dont les gestes semblent apparentés. Ainsi, Judith Scott, Franco Bellucci, Pascal Tassini et Rita Arrimon utilisent-ils des fils, des tuyaux, du scotch ou du tissu pour agglomérer, assembler, nouer et lier ces matières entre elles ou autour d'objets. Leurs œuvres font tenir ensemble ce qui, dans ou deux, leur monde, étaient disjoints. Mais peut-on pour autant conclure à un psychisme commun ? Qui peut dire ce qui se passe dans la tête de chacun d'entre eux ? Qui peut dire comment le monde s'y organise ? Ce que l'on peut avancer, c'est que, pour Roman Opalka, comme pour Joseph Lambert, l'élaboration plastique se pose en même temps en solution psychique, aussi bien pour avancer dans leur art que pour soutenir leur existence. Bien que leur monde soit différent, la communauté de leurs gestes touche néanmoins quelque chose qui n'est peut-être rien de moins qu'un des fondements anthropologiques de l'art. S'il y a des parallèles qui peuvent se révéler féconds, les écarts ne le sont pas moins. L'un des plus notables porte évidemment sur le processus de travail. À l'élaboration signifiante et rigoureusement planifiée de Roman Opalka, ne répond que le silence de Joseph Lambert. Il semblerait donc qu'avant même de mettre ses œuvres en perspective, nous butions déjà sur une aporie. Car Roman Opalka a indéniablement su élaborer un protocole de travail signifiant. Il sait détailler chaque étape de son projet et le sens qu'il lui attribue. Tandis que Joseph Lambert en est empêché, puisqu'il est affecté de profondes difficultés d'expression. Les personnes qui le côtoient régulièrement à l'AS et le connaissent bien peuvent affirmer que son travail ne semble pas procéder d'un projet construit en amont, mais que celui-ci s'élabore au jour le jour, ligne après ligne, boucle après boucle. Pour preuve, le grand livre de dessin dans lequel il s'était investi pendant plusieurs années, avant de s'interrompre brusquement pour ne plus y revenir. Du jour au lendemain, il perdit tout intérêt pour l'œuvre. L'écriture suspendue, les dernières pages resteront vierges. On serait donc enclin à affirmer que l'écart se manifeste dans la capacité de l'un à projeter mentalement son travail, tandis que l'autre serait agi par ses pulsions créatrices, sans en planifier l'organisation à long terme. Mais une fois encore, cela ne saurait figurer une caractéristique constante de l'art brut. Certains artistes ont une vision très programmatique de leur œuvre. Jean Perdrizet, Georges Widner. Et même quand celle-ci semble se développer de manière organique, il y a aussi une programmation possible, je pense à Alexandro Garcia. Au final, il faut bien dire qu'il est quasiment impossible d'identifier un seul mode opératoire propre uniquement à l'art brut. Par ailleurs, pouvoir discourir sur son propre travail est pour l'artiste un avantage certain, puisque l'art de notre présent fait grand cas des intentions de l'artiste, mais aussi de ce que j'appelle son arrière-monde, c'est-à-dire le terreau d'expérience et d'influence dans lequel germe sa création. Mais je crois qu'il faut prêter la plus grande attention aux propos de Roman Opalka lorsqu'il parle, par exemple, de l'instant du choix de s'engager totalement dans son projet comme d'une forme de suicide. J'étais très désespéré en art et philosophiquement de la vie tout court. Ou bien, lorsqu'il évoque l'impossibilité de couper un ombre en passant d'une toile à l'autre, il dit littéralement, je le cite, « Il ne faut pas que le nombre saigne. » Le pendant de la puissance conceptuelle de Roman Opalka, c'est cet équilibre psychique sur le fil du rasoir qui se fait entendre ici. À l'opposé, le silence résultant d'une parole presque impossible laisse l'œuvre, autant que la pratique, à l'état d'énigme impénétrable. Deux voies interprétatives s'ouvrent alors. La première, conventionnelle, consiste à accorder la primauté au Logos, puisqu'il étoffe l'œuvre d'une chair de mots qui lui donne une consistance certaine et un horizon qui ne l'est pas moins. La seconde conduit au contraire à valoriser le silence en articulant l'œuvre comme naissant précisément de cette impossibilité de dire et, dans une certaine mesure, comme excédant le Logos. Il existe une troisième voie. Nous avons tous, à l'intérieur de notre cerveau, un mur qui est le point limite au-delà duquel nous ne pouvons plus nous penser. Pour le franchir et aller plus loin, pour en savoir plus, il faudrait s'être penché au bord du néant, ou que quelque chose en soi ait disparu dans ce néant, qu'il s'agisse du résultat d'une déficience congénitale, d'un traumatisme ou d'une volonté existentielle. Nous connaissons les noms de ceux qui se sont aventurés à cette frontière. Parmi eux, Samuel Beckett, René Descartes, Antonin Artaud. C'est un mur commun que partagent Roman Opalka et Joseph Lambert. Chacun à leur manière, ils s'en approchent si près que je me plais à les imaginer, tels Edmond Dantès et l'abbé Faria, personnages du roman de Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, dans la nuit de leur conscience, chacun collé contre la paroi pour guetter fiévreusement, de l'autre côté, les grattements de l'autre. Au point de jonction entre Roman Opalka et Joseph Lambert, se trouve cette frontière ultime de la conscience. C'est la quête de cette frontière qui, par-dessus les failles qui existent entre les mondes intérieurs d'artistes singuliers et radicaux, jette les ponts les plus aventureux entre art brut et art contemporain. Je vous remercie de votre attention.